de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous. Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, vous écoutez maintenant le journal d'aujourd'hui. Je vais vous informer quelques événements importants, entre autres. Siti Nurbaya poursuit ses travaux en tant que ministre de l'Environnement et des Forêts. Suharto Manoarva discute de la planification du développement avec le président. 40 investisseurs ont l'intention de coopérer dans la construction de l'aéroport de Singkawang. Le président Jokowi a demandé à Sri Mulyani de renforcer l'économie indonésienne. Bon, chers auditeurs, voici les nouvelles en complet lues par Uduri. Siti Nurbaya poursuit ses travaux en tant que ministre de l'Environnement et des Forêts. Siti Nurbaya Bakar, femme politique du Parti National Démocrate, NASDEM, était présente mardi après-midi au palais présidentiel de Jakarta afin de répondre à l'appel du président Joko Widodo de convoquer les futurs ministres pour la période 2019-2024. Siti Nurbaya a déclaré aux journalistes que le président Joko Widodo lui avait demandé de reprendre ses fonctions de ministre de l'Environnement et des Forêts en poursuivant ses travaux antérieurs de 2014 à 2019. Selon Siti Nurbaya, lors de sa réunion, le président a évoqué des points liés aux activités d'investissement et d'exportation. En outre, le président a également évoqué la question de la croissance de l'emploi qui doit bénéficier du soutien de divers secteurs, notamment le secteur forestier et l'environnement. J'ai demandé donc la permission de M. le Président, car la presse aime poser des questions sur la LHK. M. le Président, je vous demande la permission, puis-je en parler aux amis de la presse? D'accord, il m'a répondu. Cela peut être fait, Madame Siti. Plus précisément, on peut dire qu'il existe une obligation de poursuivre les missions. En outre, Siti Nurbaya a déclaré au cours de la période à venir que M. le Président lui avait également demandé de pouvoir soutenir le climat d'investissement dans le pays par le biais du secteur forestier et environnemental. Selon lui, ce soutien sera réalisé sans perturber la préservation de la nature, notamment par le biais du secteur forestier social. La section LHK comprend deux sections principales. que le ministère doit améliorer, aider et soutenir les investissements sans quitter l'environnement, mentionnant spécifiquement la foresterie sociale qui fonctionne déjà mais qui doit être accélérée tout en complétant ses accès liés aux opportunités d'emploi et en rapportant également l'attention du président sur l'environnement, érosion hydrique des rivières, reboisement et réhabilitation des sols pour améliorer ou réduire les catastrophes naturelles, ainsi que pour améliorer l'environnement et l'esthétique naturelle telles que le lac Toba, la Bouane Bajo, Mandalika, etc., afin de surmonter la sécheresse des réservoirs, etc. Outre Johnny G. Platte et Shahrul Yassin Limpo, Siti Nurbaya Bakar est devenue l'une des politiciens du parti Nasdem à qui le président Joko Widodo a appelé pour pourvoir le poste de ministre. Suarso Manu Arfa discute de la planification du développement avec le président. Le président Joko Widodo a repris mardi 20 octobre 2019, la convocation d'un certain nombre de noms censés occuper le siège du ministre de la direction de Joko Maruf Amin pour la période 2019-2024. Suarso Manu Arfa, président par intérim du Parti pour l'Unité et le Développement, PPP, faisait partie des personnes présentes au palais présidentiel. Après avoir rencontré le président, Suarso Manu Arfa a déclaré qu'il avait discuté de nombreuses choses avec le président Joko Widodo concernant la planification du développement. Selon Suarso, le président Joko Widodo, dans son discours d'investiture prononcé il y a quelque temps dans les locaux du MPRRI, a exprimé son souhait que l'Indonésie soit libérée du piège des revenus intermédiaires. Lors de sa rencontre avec le président, selon Suarso, le président Joko Widodo a exposé les mesures que doit prendre le gouvernement pour éviter le piège du niveau de revenus moyen.
Le président m'a demandé de préparer une roadmap.
Le président m'a demandé de préparer une feuille de route, même dans un avenir proche, à présenter lors de la séance inaugurale du cabinet et d'expliquer au cabinet à ce sujet et aux autres de parler de l'économie en général, de la situation de l'économie mondiale et de l'emploi, de l'industrie, de la recherche technologique, de l'innovation et autres. En outre, Suarso Manu Arfa a déclaré que le président Joko Widodo lui avait également demandé de préparer le transfert de la capitale de Jakarta à Kalimantan Est. À ce sujet, Suarso a déclaré que le président Joko Widodo lui avait demandé de constituer immédiatement l'autorité de la capitale à la fin de 2019. 40 investisseurs ont l'intention de coopérer dans la construction de l'aéroport de Singkawang. La maire de Singkawang, Chai Chui Mi, a déclaré qu'il y avait environ 40 investisseurs qui ont l'intention de coopérer dans la construction et la gestion de l'aéroport de Singkawang, Kalimantan occidental. Elle a déclaré mardi à Singkawang que des dizaines d'investisseurs potentiels souhaitant investir dans l'aéroport de Singkawang venaient non seulement d'Indonésie, mais également de Chine, du Japon, de Singapour et de la France. Auparavant, le directeur de l'aéroport de Singkawang, Pramito Hadi, a déclaré que les besoins d'investissement totaux de l'aéroport atteignaient 4,3 milliards de roupias. L'investissement est nécessaire pour les dépenses en capital et le capital d'exploitation. Le président Jokowi a demandé à Sri Mulyani de renforcer l'économie indonésienne. Le président Joko Widodo a demandé à Sri Mulyani Indrawati de soutenir le processus de renforcement de l'économie indonésienne pour la période de 2019 à 2024 en sa qualité de ministre des Finances. C'est ce que Sri Mulyani Indrawati a déclaré mardi au palais présidentiel de Jakarta. Sri Mulyani Indrawati et le président Jokowi ont discuté du renforcement de l'industrie indonésienne par le renforcement des compétences en ressources humaines. Elle a également déclaré l'effort de politique fiscale pour encourager d'autres ministères dans l'industrialisation, créer des emplois, encourager le développement des petites et moyennes entreprises. Quand on lui a demandé s'il y avait un changement dans la nomenclature du cabinet, elle a dit que le président Jokowi l'avait dit. Elle anticipera pour que le processus de transition se déroule rapidement et efficacement afin de ne pas perturber les programmes prioritaires. Le nouveau ministre du Commerce devrait encourager l'égalité économique. Le directeur exécutif indonésien pour la justice mondiale IJJ, Rahmi Hertanti, a espéré que quiconque est élu ministre du Commerce pour la période 2019-2024 devrait être en mesure d'encourager des politiques commerciales favorables à l'égalité économique nationale. C'est ce qu'a affirmé Rahmi Hertanti à Antara à Jakarta mardi. Selon Rahmi, cela peut être fait, entre autres, en créant des politiques à l'avenir peuvent accroître efficacement le commerce interinsulaire en renforçant les produits locaux. En outre, elle a déclaré qu'il était également nécessaire d'améliorer la compétitivité commerciale de l'Indonésie avec des produits à haute valeur ajoutée et de ne plus dépendre des produits d'extraction. Elle a également souligné qu'il était important d'élaborer des stratégies de réglementation non tarifaire appropriées afin d'améliorer la compétitivité des produits et des industries du pays. Auparavant, le ministre du Commerce, Enggartiasto Lukita, avait ciblé 12 accords commerciaux, y compris 8 d'entre eux avec des marchés non traditionnels, sera achevé en 2020. En tant que stratégie pour augmenter les exportations. Le vice-président Ma'ruf Amin et le roi malais ont discuté des efforts de lutte contre le radicalisme. Le vice-président Ma'ruf Amin et le roi malais, Yang Dipertuan Agong Sultan Abdullah Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, ont discuté des efforts visant à accroître la tolérance et à lutter contre le radicalisme dans les deux pays. C'est ce qu'a déclaré mardi le vice-président Ma'ruf à l'hôtel impérial à Tokyo. Avec la plus grande population musulmane, le vice-président a déclaré que l'Indonésie et la Malaisie avaient un rôle important à jouer dans le développement de l'enseignement islamique à moyen terme ou avec l'idée islamique d'un juste milieu, l'Indonésie et la Malaisie devraient contribuer au maintien de la paix dans la région de l'Asie du Sud-Est. La rencontre entre le vice-président indonésien Ma'ruf et le roi malais a eu lieu mardi matin à 10h, heure locale. Auparavant, ils ont assisté à la cérémonie de couronnement de l'empereur japonais Naruhito. Le roi Sultan Abdullah de Malaisie est le quatrième invité d'honneur à faire une visite de courtoisie avec Ma'ruf Amin depuis son installation. Auparavant, Ma'ruf Amin a reçu la visite d'honneur du vice-président chinois Wang Shishan, du vice-président vietnamien Dang Thi Ngoc Thinh et du vice-président du Myanmar Henry Van Thieu. Chers auditeurs, c'était les nouvelles.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Le couronnement de l'empereur Naruhito a montré la grandeur du Japon en préservant les traditions de la nation. Le Japon a déjà un nouvel empereur. Le lundi 22 octobre, Naruhito est officiellement devenu l'empereur du pays en remplaçant de son père, l'empereur Akihito. Cela montre que le Japon continue de préserver une tradition qui dure depuis 200 ans. Ce qui est un signe de renouvellement et Akihito a abdiqué à sa propre demande. C'était la première fois depuis 1817. La démission de Akihito pour des raisons d'âge et de santé ne s'était jamais produite dans la famille impériale depuis la démission de l'empereur Kokaku en 1817. Concernant la démission Akihito, il a été fait l'amendement de la loi de régulation impériale par le cabinet impérial japonais. L'amendement a été ratifié un mois après l'abdication de Akihito, le 30 août 2019. En éliminant le défilé festif comme forme d'empathie pour le sacrifice du Tippon Hagibis, le couronnement de l'empereur Naruhito s'est déroulé conformément à la tradition de l'Empire qui se déroulait depuis 200 ans. Par conséquent, on peut dire qu'au milieu de la vie japonaise moderne, il conserve encore une tradition pour des générations. Dans le système des États japonais, l'empereur est un symbole et un chef d'État hautement respecté. Le gouvernement est dirigé par le premier ministre et son cabinet élu démocratiquement dans les pays occidentaux. Le couronnement de Naruhito en tant que nouvel empereur du Japon est également devenu un signe de la reconnaissance du Japon sur la scène internationale. Au moins 180 représentants de pays du monde entier ont assisté au couronnement très solennel et gracieux. L'Indonésie était représentée par le vice-président Ma'ruf Amin. Pour Ma'ruf Amin, sa présence à Tokyo a également marqué sa première visite d'État. Un jour après sa nomination à la vice-présidence de la République d'Indonésie pour la période 2019-2024. Le président des États-Unis se rendrait à Tokyo pour rencontrer l'empereur Naruhito. La visite de Trump est une forme de l'opinion des États-Unis sur l'importance du Japon pour les États-Unis. Le Japon, une nation insulaire détruite par la bombe atomique larguée par les États-Unis sur Nagasaki et Hiroshima en 1945, a tenté de progresser face à la société moderne tout en conservant les symboles de l'État qui existaient depuis 200 ans et qui semblaient être reconnus par les grands pays. C'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Chers auditeurs, voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement, la signature de l'accord de paix de Paris le 23 octobre 1991. L'accord de paix de Paris, également connu sous le nom l'accord de paix global cambodgien, a été signé le 23 octobre 1991 et a officiellement mis fin à la guerre Cambodge-Vietnam. L'accord a débouché sur le déploiement de la première mission de maintien de la paix après la guerre froide, UNTAC, et la première occasion pour les Nations Unies de prendre en charge en tant que gouvernement d'un pays. Cet accord a été signé par 19 pays. L'autre information est sur la guerre civile en Libye a pris fin le 23 octobre 2011. La guerre civile libyenne a été déclenchée par une manifestation à Benghazi le 15 février 2011 pour exiger la démission du dirigeant libyen Muammar Kadhafi au pouvoir depuis longtemps. À la suite des actions répressives du gouvernement auprès des manifestants, cette manifestation s'est transformée en rébellion et en guerre civile. Les forces d'opposition et le gouvernement se sont affrontés dans la guerre qui a débuté à la fin de février. Cette guerre a également entraîné la fuite de nombreux Libyens vers des endroits plus sûrs. Nous terminons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement en tremblement de terre dans la ville de Van en Turquie le 23 octobre 2011. Le 23 octobre 2011, un tremblement de terre s'est produit dans la ville de Van, en Turquie, située à l'extrémité d'est de la Turquie, bordant avec l'Iran. Ce séisme a la force d'environ 6,0 sur l'échelle de Richter. Ce tremblement de terre a eu lieu dimanche le 23 octobre 2011 à 13h41 heure locale. Le pays centre situé à une profondeur de 20 km a causé de lourds dégâts dans l'est de la Turquie et a été ressenti dans de nombreuses régions du Proche-Orient. On estime que 1000 personnes sont mortes à cause de ce séisme. Série de talk, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir. Chers auditeurs, c'était la chanson intitulée Suratku, chantée par Heidi Yunus. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Et voici donc mon Indonésie. Chers amis de l'antenne, pour la rubrique suivante, voici donc mon Indonésie. Et pour le titre, le président Jokowi veut que l'Indonésie soit séparée du piège de la classe moyenne en 2045. Le président de la République d'Indonésie, Joko Widodo ou Jokowi, a espéré que l'Indonésie sortirait du piège de revenus de la classe moyenne en 2045. C'est ce qu'a déclaré Jokowi dimanche dans son discours d'investiture du président et du vice-président 2019-2024 à Jakarta. le président souhaite que l'Indonésie devienne un pays développé avec des revenus d'environ 320 millions de roupies par habitant et par an, soit 27 millions de roupies par habitant et par mois. Le produit intérieur brut de l'Indonésie atteint 7 trillions de dollars américains. Ainsi, l'Indonésie est incluse dans le top 5 des économies mondiales avec une pauvreté proche de 0%. Selon le président Jokowi, le gouvernement a calculé et déclaré que cet objectif est très raisonnable et très possible à atteindre. Mais le président Jokowi a admis que tout cela ne venait pas facilement. Le travail acharné doit être accompagné et l'Indonésie doit travailler vite et doit être accompagné de travail productif. Le président Joko Widodo a déclaré que l'Indonésie devait continuer à développer de nouvelles manières et valeurs pour ne pas se laisser prendre à des routines monotones. Le président a également déclaré que l'innovation n'était pas seulement la connaissance, l'innovation était aussi la culture. Répondant au discours du président, le recteur de l'Institut des entreprises et de l'informatique Kwikwiangi, Hisar Sirait, a expliqué qu'il existait un certain nombre de conditions préalables à la réalisation du désir de sortir du piège du revenu de la classe moyenne en 2045. L'une d'entre elles consiste à disposer de ressources humaines suffisantes. Cet aspect doit être abordé au cours de la deuxième période du président Jokowi, à savoir disposer de ressources humaines qui ne sont plus du niveau de la main-d'œuvre semi-qualifiée ou des travailleurs semi-qualifiés, mais doivent atteindre le niveau de la main-d'œuvre qualifiée. En outre, pour que les ressources humaines maîtrisent la technologie, il est nécessaire d'avoir accès à la disponibilité de la technologie pour la communauté. Par conséquent, la technologie doit être une partie prioritaire du gouvernement. Hisar Sirait a ajouté que le gouvernement avait également joué un rôle pour que les ressources humaines indonésiennes soient non seulement compétitives sur le marché intérieur, mais également au niveau international. Pendant ce temps, l'Institut pour le développement de l'économie et des finances, INDEF, a estimé que l'une des conditions pour sortir du piège du revenu de la classe moyenne était de créer une croissance économique élevée et équitable. Un chercheur d'INDEF, Rusli Abdullah, a déclaré qu'une croissance économique élevée était nécessaire pour obtenir un revenu par habitant entrant dans la classification des pays développés, tandis que l'équité était nécessaire pour que la croissance économique puisse être ressentie par tous les niveaux de la couche de société. Selon Rusli, l'équité peut être réalisée en donnant l'accès à l'éducation, à la santé, à l'économie et aux politiques aux couches moyennes et inférieures de la société. Une autre condition de sortir du piège de la classe moyenne, selon INDEF, est l'élimination de la corruption et les réformes bureaucratiques. C'est Rita, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Dalam de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson intitulée Takkan Terganti, chantée par Dea Mirella. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, d'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Bonsoir à tous, retrouvons-nous dans votre rubrique quotidienne, le magazine culturel. Pour l'édition de ce soir, nous vous invitons à visiter la forêt de bambou du village d'Alou. Soyez toujours avec nous, la Voix d'Indonésie, le service international de RRI. La brise et le bruissement des feuilles de bambou qui sont très chocs vous accueilleront à cette destination touristique. La végétation luxuriante des bambous vous protégera de la lumière du soleil. Polewali Mandar dans le Sulawesi occidental est riche en objet de tourisme naturel. L'un d'entre eux se trouve dans la forêt de bambou de l'arrière-pays du village d'Alou dans le district d'Alou en résidence de Polewali Mandar. La forêt de bambou couvre 20 hectares et se trouve à 60 km du district de Polewali, la capitale de la résidence de Polewali Mandar. Elle est accessible en voiture ou en moto d'environ 1h30. La forêt de bambou conserve encore l'atmosphère typique du village, car il y a encore quelques kiosques de petites houttes, une salle de réunion et une mosque en bambou. L'utilisation de la forêt de bambou en tant que nouvelle destination touristique a commencé il y a plusieurs années. À partir du festival artistique et culturel, se déroule à la forêt et se fait connaître largement par le public. Depuis ce moment, de nombreux habitants se sont rendus dans la forêt pour des visites touristiques, du camping, des activités du gouvernement et des réceptions de mariage. La forêt de bambou est différente de ce que les gens imaginent si on entend le mot forêt de bambou. Les populations locales se rendent compte qu'un grand potentiel pour améliorer leur économie si elles continuent à prendre soin de la forêt de bambou et à offrir diverses options aux touristes qui viennent. Des touristes qui viennent visiter la forêt de bambou, ils se sentent complets avec quelques endroits intéressants pour le selfie. À certains endroits, les touristes peuvent voir l'eau couler à travers une rivière rocheuse combinée au bruit des feuilles de bambou se frottant les unes contre les autres en raison de la brise légère. Êtes-vous intéressé par cette destination? Venez dans la forêt de bambou du village Alou à Polewali Mandar dans la province de Sulawesi Ouest. Chers auditeurs et auditrices, c'était le magazine culturel pour ce soir. Demain, nous nous retrouverons avec un autre sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Kemarin ku melihat rasa sekarang kau masih memikirkan tentang dia. Apa kurangnya aku di dalam hidupmu hingga kau curangi aku? Katakanlah sekarang bahwa kau tak bahagia. Aku punya ragamu tapi tidak hatimu. Kau tak perlu
Chers auditeurs, c'était la chanson du groupe musical Armada intitulée Asal Kau Bahagia. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Pour la réflexion suivante, voici donc apprendre l'indonésien.
Bonsoir à tous, vous êtes avec moi Audrey de la Voix de l'Indonésie. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien. Une rubrique qui vous introduit des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Le sujet d'aujourd'hui est Pukul Setengah Lima, ou en français, il est 4h30. Bonne écoute. Chers amis, je vais vous donner l'exemple d'une conversation intitulée Pukul Setengah Lima, ou en français, il est 4h30. Les personnages sont Tony et Dinda. L'emplacement est à la maison de Joko. La situation, Dinda et Tony parlent de l'expérience de Tony qui a vu le lever du soleil du haut du temple de Borobudur.
Kemarin dari hotel, pergi ke candi pukul berapa?
Kira-kira pukul 4:30 pagi. 30 menit kemudian, saya tiba di puncak candi Borobudur. Pukul 5 lebih, matahari keluar dari balik pegunungan. Indah sekali.
« Chers amis, après avoir écouté cette conversation, je vais vous introduire des vocabulaires et des phrases indonésiennes liées au sujet d'aujourd'hui. Pukul setengah lima. Pukul setengah lima. Ou en français, à 4h30. Je vais prononcer normalement, doucement et lentement, chaque mot ou chaque phrase deux fois. Et vous pouvez les répéter après moi. Kemarin dari hotel pergi ke candi pukul berapa? Kemarin dari hotel pergi ke candi pukul berapa? En français, hier à quelle heure es-tu allé au temple de l'hôtel? Kira-kira pukul setengah lima pagi. Kira-kira pukul setengah lima pagi. En français, à environ 4h30 du matin. 30 menit kemudian, saya tiba di puncak Candi Borobudur. 30 menit kemudian, saya tiba di puncak Borobudur. En français, 30 minutes plus tard, je suis arrivé au sommet du temple de Borobudur. Pukul 5 lebih, matahari keluar dari balik pegunungan. Pukul 5 lebih, matahari keluar dari balik pegunungan. En français, à 5h plus, le soleil était sorti de derrière les montagnes. Indah sekali. Indah sekali. En français, c'était magnifique. Chers amis, dans le dialogue, Dinda demande de l'heure de départ de Tony au temple. Et Tony lui répond « Kira-kira pukul setengah lima pagi. Kira-kira pukul setengah lima pagi. » Ou « à environ 4h30 du matin. » La phrase « pukul setengah lima pagi » Pukul setengah lima pagi a la même signification que pukul 4 lebih 30 menit. Pukul 4 lebih 30 menit. C'est-à-dire, il est 4h30. Il existe plusieurs expressions que vous pouvez utiliser pour exprimer le temps. Par exemple, pour exprimer il est 4h30, vous pouvez dire pukul 4 lebih 30 menit. Pukul 4 lebih 30 menit. Ou bien, pukul 4.30. Pukul 4.30. Ou bien, pukul setengah 5. Pukul setengah 5. Chers amis, si c'est plus de 30 minutes, par exemple, il est 4h45, vous pouvez dire pukul 4 lebih 45 menit. Pukul 4 lebih 45 menit. Ou bien, pukul 4.45. Pukul 4.45. Ou bien, pukul 5 kurang 15 menit. Pukul 5 kurang 15 menit. Ou bien, pukul 5 kurang 1/4. Pukul 5 kurang 1/4. Bon, dans des conversations informelles, le mot minute ou minute n'est parfois pas mentionné. Ensuite, vous écoutez Tony dit 30 menit kemudian saya tiba di puncak Candi Borobudur. 30 menit kemudian saya tiba di puncak Candi Borobudur. Signifie 30 minutes plus tard, je suis arrivé au sommet du temple de Borobudur. D'après l'expression de Tony, une autre façon d'exprimer le temps est en mentionnant la durée suivie du mot kemudian. Signifie plus tard ou sebelumnya signifie avant. Par exemple, saya pergi pukul 6, 20 menit kemudian saya tiba di sana. Saya pergi pukul 6, 20 menit kemudian saya tiba di sana. Qui signifie je vais à 6h. 20 minutes plus tard, je suis arrivé. Un autre exemple, saya pergi pukul 7. 1 jam sebelumnya saya berolahraga. Saya pergi pukul 7. 1 jam sebelumnya saya berolahraga. Signifie je vais à 7h. Une heure avant, je faisais du sport. Chers auditeurs, avant de terminer le programme de l'apprendre indonésien, pour comprendre plus, écoutons la conversation encore une fois.
Kemarin dari hotel, pergi ke candi pukul berapa?
Kira-kira pukul setengah 5 pagi. 30 menit kemudian, saya tiba di puncak Candi Borobudur. Pukul 5 lebih, matahari keluar dari balik pegunungan. Indah sekali.
Chers amis, voilà l'édition de la rubrique d'apprendre l'indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourrait être utile pour ceux d'entre vous qui veulent savoir plus l'indonésien. On se retrouvera demain avec d'autres sujets intéressants. Merci beaucoup pour votre attention. À demain.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson intitulée Harus Bahagia, chantée par Yura Yunita. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, d'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
La voix de l'Indonésie au monde. Chers amis, après ça, je vais vous présenter une chanson de Sumatra West intitulée Kampuang Nan Jauh Dimato. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, cette chanson a été créée par Oslan Hussein. Kampung Nan Jauh Dimato s'agit de l'histoire de quelqu'un qui aspire à son village natal. À son village natal, toute la famille et les amis se rassemblent lorsqu'il aspire et se souvient de sa ville natale. Il se sent comme si sa mère, son père et son frère l'appelaient rentrer à la maison. Chers amis, voici le groupe Tentu Vive va chanter Kampuang Nan Jauh Dimato. Bonne écoute. Thank you.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en française pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.